Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons dans cette émission Franck Poimba. Il est directeur général de la revue Mining News. Il est fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement. Il est aussi coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Bonjour Franck Poimba.
Bonjour Gumaté, bonjour les auditeurs Radio Okapi.
Madame Faïda Mwangilwa, elle est membre de la société civile, elle est experte en genre. Bonjour Madame Faïda Mwangilwa.
Bonjour Gumaté.
Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Bonjour Louis Magloire Kemayou.
Bonjour Gimaté, bonjour tout le monde.
Merci et à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Franck Poimba. Il est directeur général de la revue Mining News. Il est fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement. Il est aussi coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Madame Faïda Mwangilwa, elle est membre de la société civile et elle est experte en genre. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou. Il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Au menu de cette émission, tête à tête entre Félix Tshisekedi et João Lourenço à Kinshasa autour du processus de Luanda et du cessez-le-feu décidé par la RDC et le Rwanda. Création d'un organe au sein de l'Agence nationale des renseignements, d'un département d'intelligence économique et financière. Et enfin, élection du bureau définitif du Sénat, un bureau composé de 7 membres dont une femme. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la décision du gouvernement d'alléger la fiscalité sur les importations des nefs produits de consommation. En effet, le gouvernement a décidé d'alléger la fiscalité sur les importations des nefs produits dont la viande, la volaille, les poissons salés, le lait en poudre, le riz, le maïs, l'huile végétale et le sucre. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, l'a annoncé mardi 13 août lors d'un point de presse animé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. Il a précisé que tous les droits, taxes et redevances sont supprimés sur le maïs et la farine de maïs. Selon Daniel Moukoko Samba, cette initiative vise à privilégier les biens nets des Congolais face aux services de l'État qui bénéficient de ces frais. Franck Poimba, quel impact cette mesure pourrait, à votre avis, avoir à moyen, à court ou à long terme sur le pouvoir d'achat de la population congolaise?
Merci, cher Gu. Sincèrement, je ne suis pas fan de ce genre de mesures pour deux choses. La première, c'est que les mesures prises sur les produits de première nécessité, généralement les produits agroalimentaires, concernent la sécurité alimentaire des Congolais. Ce sont des mesures qui encouragent les importations. On ne peut pas assurer la sécurité d'un pays. Ventre affamé ne sait pas travailler, ventre affamé ne sait pas étudier, ventre affamé ne sait pas réfléchir. On ne peut pas assurer un pilier de la sécurité du pays en continuant de promouvoir l'importation des produits de première nécessité, donc les produits de base, la nourriture. C'est honteux que le gouvernement travaille sur ce genre de mesures, au lieu de travailler plutôt sur la politique agroalimentaire qui puisse assurer la sécurité en annulant trop de taxes, trop d'impôts qui pèsent sur les fermiers congolais qui sont là, qui seront toujours soumis à la compétition rude. Parce que on prend les pays comme la Zambie. Quand on va prendre du maïs de la Zambie, là, en Zambie, c'est un pays, les produits alimentaires de base sont subventionnés. Le gouvernement prend les mesures pour assurer qu'ils produisent et ils nous vendent le surplus. Ça veut dire que la Zambie, le jour qu'il n'a plus de surplus, les mesures ne serviront à rien parce qu'il y aura une crise alimentaire au pays. La deuxième raison pour laquelle je ne suis pas tellement pour ce genre de mesures, c'est que ça n'encourage pas l'économie nationale. Ça ne crée pas les emplois au niveau national. Et là, je vais me répéter pour me dire, nous avons besoin d'une politique agro-pastorale bien réfléchie, une politique courageuse qui fasse comme ailleurs. Ça veut dire qu'on privilégie la production locale de la nourriture par les nationaux en faisant non seulement en enlevant tout ce qu'il y a comme taxe sur les produits, sur les intrants, sur les machines et sur les autres, mais aussi en travaillant sur les routes et les recettes agricoles. Parce que pendant qu'on a enlevé, on peut suspendre les mesures, c'est très bon. Mais je sais que dans les temps, on n'importait pas tellement du maïs de la Zambie. Par exemple, je prends pour la partie sud, la RDC, le Katanga, je prends pour le Kasai. Le maïs qui était consommé dans le Katanga, il venait pour la plupart du nord Katanga, où actuellement le Tanganyika est une partie de la province du Haut Lomami. Et une partie du maïs qui était consommé au Kasai, le Kasai oriental. Le maïs venait de Kongolo, de Lubao, et le maïs venait de Kamina et de Kabalo, de News aussi. Le Kasai occidental consommait le maïs qui venait de Mweka et de Kakenge. Ça veut dire que localement, si on va avec une politique cohérente qui travaille pour la sécurité agroalimentaire, on va résoudre les problèmes sans recourir aux importations. À court terme, c'est une mesure, ok, pour faciliter qu'il y ait un peu de farine, un peu de denrées sur les marchés, mais ça ne résout aucun problème parce que ça ne va pas améliorer le niveau de vie du Congolais, ça ne va pas créer des emplois. Ça ne va pas créer de la richesse, ça ne va pas résoudre le problème alimentaire.
Merci. Louis Magloire Kebayou, justement, il s'agit, comme l'a dit Franck Fouamba, des mesures conjoncturelles pour, n'est-ce pas, répondre à un problème qui vient de se poser actuellement, notamment la cherté de la vie. Mais après, on risque de revenir à la case de départ, comme il a dit. Vous ne pensez pas qu'en plus de ces mesures conjoncturelles, on devait aussi réfléchir sur les solutions structurelles, notamment voir comment on peut diversifier l'économie nationale?
Bien sûr. Je disais, que n'aurait-on pas dit si la RDC s'était retrouvée en situation d'urgence alimentaire et que le gouvernement n'avait pas réagi, n'avait pas pris des mesures pour que le pays sorte de cette situation, ou alors que le pays ne soit pas plongé dans une situation aussi catastrophique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut envisager la politique, gouverner c'est prévoir. Il faut envisager la politique sous l'angle de la prospective. Mais quand on est face à une situation d'urgence, il faut également prendre des mesures d'urgence. Et c'est pourquoi je ne vais pas être trop dur avec le gouvernement de ce point de vue, parce qu'il s'agit de parer au plus précis, d'éviter que le pays tombe dans une situation d'urgence alimentaire. Une fois qu'il aura résolu ce problème, je pense que la priorité pour le gouvernement sera effectivement d'assurer une sécurité alimentaire qui soit celle de l'autosuffisance par la production endogène, non pas celle qui vient de l'extérieur, non pas celle qui oblige le pays à utiliser le peu de devises qu'il gagne à l'extérieur pour acheter de la nourriture qu'il aurait pu produire sur place, puisque la RDC a un taux de terre fertile parmi les plus élevés du continent africain. Et donc c'est vrai que ça pourrait paraître absurde que le pays importe encore, mais si la situation l'impose, je pense qu'il ne faut pas se priver de cet instrument-là.
Merci Madame Faïda Wangula. Si l'objectif est de faire baisser les prix de ces produits, à votre avis ça pourrait se passer comment quand on sait que certains commerçants véreux utilisent l'argument des stocks, hein, parce qu'ils ne voudraient pas baisser les prix, ils pourraient affirmer que la marchandise qu'ils ont fait partie des anciens stocks et par conséquent ils vont maintenir les anciens prix.
Effectivement, le problème se posera au niveau de la mise en application de toutes ces mesures. Alléger la fiscalité sur les importations de produits de consommation au stade actuel, compte tenu de la conjoncture, vous voyez, notre population aujourd'hui a un niveau de vie, en tout cas, très bas. Et il est question de voir comment trouver des solutions durables. Nous voyons comment les agents et fonctionnaires de l'État, surtout au niveau de l'économie nationale, comment ils se comportent. On aura effectivement des craintes parce que sur le marché, demander à une personne qui a acheté à tel prix, lui demander de réduire, ces personnes-là seront pénalisées. Mais il est question à un certain moment de prendre des mesures courageuses. D'une part, j'apprécie cette décision parce que la situation sociale de la population devient très précaire. Monsieur Guy et l'ensemble de tous nos auditeurs et auditrices, si vous faites le tour de la capitale, on ne prend que la capitale Kinshasa, le tour dans les communes, y compris la commune de la Gombe, nos villes sont envahies. La ville de Kinshasa est envahie par un phénomène qu'on appelle le phénomène Malewa. À un certain moment, que ce soit sur le coin de boulevard, dans les communes et tout, Kitambo, toutes les communes, vous trouvez des gens qui sont en train de faire le Malewa. Ce qui signifie que sur le plan social, les familles, les ménages ne mangent plus ensemble, ne partagent plus le repas ensemble faute de moyens. C'est un enfant qui sort, qui s'achète une chikwange, qui s'achète un morceau d'un piodi et mange, et voilà. Et ça détruit les ménages. Parce qu'à un certain moment, la famille, nous disons, c'est la cellule de base d'une société, mais compte tenu de la conjoncture économique actuelle, il est difficile pour beaucoup de ménages de préparer des repas, parce que je me pose toujours la question, mais qui termine tous ces coucous des manioc que vous passez sur n'importe quelle rue, vous trouvez des mamans en train de faire des foufou, de griller des piodi et tout. Donc nous sommes dans une situation critique qui demande aussi des mesures d'encouragement, comment soutenir la population. Mais le vrai problème, c'est de voir comment travailler sur les infrastructures routières. Monsieur Guy, il n'y a pas longtemps, j'étais en Badaka. J'ai fait juste 50 km à Bongondé. Et la route est difficile. On est parti avec le centre cartel pour encourager le travail que réalisent les femmes. Mais sur le terrain, vous trouvez un régime de bananes à 5000 francs. Mais un verre du sel à 2500 francs. Vous vous imaginez cette femme qui a travaillé, qui a planté ses bananes, qui a cultivé, qui a attendu une année et doit vendre le régime tout simplement alors que c'est pas loin. C'est à moins de 60 km. Mais vous allez faire autant de jours. Il en est de même de beaucoup d'autres coins. Si tu quittes Bounia, tu vas vers Mahagi, c'est le même problème. Donc, nous comme Congolais, en principe, par rapport à la richesse de notre sol, nous n'avons pas besoin des importations de produits vivriers. Mais nous avons besoin des politiques publiques qui peuvent soutenir l'accroissement du niveau de vie de la population. Notre population est forte pour se prendre en charge, mais il nous manque de politiques allant dans le sens de désenclaver certains milieux ruraux qui ont des vivres et tout, mais qui ne savent pas comment évacuer. Je dois avouer ici que c'est un morceau dur pour le gouvernement. Comment le gouvernement va se comporter, le ministère de l'économie notamment, pour suivre la mise en application de toutes ces mesures qui sont prises. Mais moi, je me dis, c'est à titre conjoncturel, mais ça n'apportera pas de solutions durables. Les solutions durables sont entre nos mains, comme citoyens et citoyennes, sont entre les mains de nos dirigeants pour définir des priorités à court terme, à moyen terme et à long terme, et voir comment nous faire sortir de cette situation de pauvreté, d'extrême pauvreté. Voilà, monsieur Guy et l'ensemble de nos auditeurs et auditrices, le point de vue que j'ai par rapport à cette question-là.
Merci, on prend une petite pause avec Monapo et on revient juste après.
Thank you. mboka na yo.
Ebongi tozala na mbongwa makasi tolenge ya France.
C'était Mwanapo, cette chanson qui a été interprétée en 1998 par un collectif de musiciens congolais lors du lancement par la Banque centrale du franc congolais. On revient à l'actualité cette semaine. Le président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC, est arrivé lundi 12 août à Kinshasa pour une visite de travail avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête suivi d'une séance de travail élargie à leur proches collaborateurs. Les échanges ont porté, selon la présidence congolaise, sur le processus de Luanda et les cessez-le-feu décidés par la RDC et le Rwanda lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques visant à assurer le respect du nouvel accord de cessez-le-feu signé le 30 juillet à Luanda entre la RDC et le Rwanda sous la médiation de João Lourenço. Pendant ce temps, au Nord Kivu, un cas de meurtre d'un civil attribué aux rebelles du M23 a été enregistré mardi dans le groupement des Rougaris, territoire des Rutshuru, ce qui porte à au moins 12 le nombre de personnes tuées par ces rebelles en l'espace d'une semaine dans cette entité, disent certaines sources contactées dans la région. Louis Magloire Kemayou, vous êtes journaliste camerounais, vous êtes écrivain et président du Club de l'information africaine. Vous avez souhaité analyser cette actualité. On vous écoute.
Oui, en fait, j'ai porté mon choix sur cette rencontre entre les deux chefs d'État congolais et angolais parce que l'on remarque ces derniers temps une certaine absence de l'Union africaine, voire des organisations de coopération régionale au sein de l'Union africaine par rapport aux questions à la fois de coopération et de sécurité. Pourtant, ce sont des enjeux aujourd'hui qui sont très importants. La CAF est en train d'être mise en application. À côté de cela, l'insécurité liée au terrorisme est également un véritable enjeu pour nos économies, voire pour nos populations. Et il est déplorable de constater que dans un contexte comme celui-là, et vu que nos pays sont tout à fait au courant du fait qu'ils sont obligés de travailler ensemble pour trouver des solutions viables, des solutions à long terme, qui ne sont pas là uniquement pour apporter des réponses temporelles à des situations conjoncturelles. Le fait qu'il y ait cette réunion me rassure sur le fait que, entre chefs d'État, entre pays et surtout au niveau de l'Union africaine, la question de la sécurité et la question de la coopération pacifique entre les États reste d'actualité. Maintenant, il faut donner du corps à tout cela. Il faut arriver à faire en sorte de trouver des solutions qui ne soient pas en train juste d'être des sparadraps sur une jambe de bois, mais des solutions à long terme dans la coopération entre les agences de renseignement, la coopération entre les dirigeants, entre les hommes d'affaires, entre les peuples, pour que la coopération soit une affaire de peuple d'abord, avant d'être une question de réglementation et de coopération inter-État. Donc pour moi, c'était très important de mettre l'accent là-dessus pour rappeler que l'Union africaine n'est pas morte, et même qu'au niveau sous-régional, une communauté comme la CEAC n'est pas encore morte et qu'elle peut encore produire des résultats. Je donne un chèque en blanc à ces chefs d'État en attendant qu'une solution concrète, que des résultats concrets soient relevés sur le terrain.
Oui, justement, le mécanisme de Luanda a proposé un accord de cesser le feu qui doit, en principe, si les deux parties le respectent, aboutir, n'est-ce pas, au règlement du conflit congolais. Mais le propre de ce type d'accord n'est-il pas leur caractère fragile, dans ce sens que leur mise en œuvre est fonction de la bonne foi des parties, d'autant plus que les camps qui ne trouvent pas son intérêt dans cet accord peut ou ne pas le respecter et trouvera toujours le prétexte, n'est-ce pas, de justifier son attitude.
Le pire, c'est que, au-delà des deux parties en présence, c'est-à-dire le gouvernement et les rebelles, en l'occurrence ceux du M23, ce ne sont que deux parties prenantes parmi plein d'autres sur le terrain. Aujourd'hui, dans l'est de la RDC, pour ne prendre que ce cas-là, nous avons plus de 100 milices qui opèrent. Si vous arrivez à trouver la paix par rapport à une des milices, il en reste encore au moins 199 contre lesquels il faudra se battre. Donc l'idée ici, c'est non seulement de dire qu'on va éteindre l'incendie, mais c'est d'arriver surtout à faire que les populations puissent reprendre la vie dans ces régions-là de façon paisible. Que la vie économique reprenne, que la vie sociale reprenne et que la paix s'installe de façon durable. Mais si on veut combattre cela uniquement avec des armes, ça ne marchera pas. Et même si on le faisait, il faudrait qu'il y ait parmi les voisins la volonté que chacun s'engage à ne pas aider les milices qui prendront les armes contre le gouvernement central, que ce soit au niveau du Rwanda, que ce soit au niveau de l'Ouganda, que ce soit au niveau de l'Angola ou de n'importe quel autre pays voisin. On doit s'engager à ce qu'aucun mouvement rebelle ne puisse trouver refuge dans un autre pays, et cela donnera des coups d'effranche aux forces de défense et de sécurité pour les traquer, les anéantir et donc faire revenir la paix. Mais tant qu'on restera dans un semblant de recherche de paix et de sécurité, on aura un semblant de paix, et comme elle est fragile, effectivement, la guerre reviendra et l'insécurité continuera de sévir.
Merci Franck Fouamba, vous êtes directeur général de la revue Mining News, vous êtes fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement, vous êtes aussi coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Cet accord ne pourrait-il pas être buté à certains engagements contenus dans ces textes, hein? C'est comme par exemple le fait que le gouvernement congolais s'engage à désarmer les FDLR, quand on sait que Kinshasa n'a pas assez de marge de manœuvre, n'est-ce pas, pour respecter cet engagement.
Merci Gu. Je vais surfer sur certaines déclarations de mon collègue et co-débatteur qui sont très importantes à propos de cette histoire afin de discuter sur ce que vous avez dit. Je commence par dire que le régime angolais de Dos Santos, il est différent du régime angolais de Lourenço. J'ai dit ça par rapport à l'histoire. Quand le Rwanda, il n'y a pas l'M23, c'est le Rwanda, on doit le dire, parce que c'est lui qui a signé en Angola avec la RDC, c'est pas l'M23, c'est le Rwanda qui a signé. Et le Rwanda s'est engagé officiellement comme pays qui viole la RDC autant que la Russie le fait pour l'Ukraine. Et c'est là que tout le monde doit être sincère envers la RDC, le régime angolais doit être sincère avec la RDC, autant qu'il était sous le président Dos Santos. C'est anormal que le Rwanda, qui sait que le régime de Kagame est en RDC depuis 1996, et que Kariga, quand il était ambassadeur à Kinshasa, il a dit que l'FDLR était neutralisé par les Rwandais et l'armée congolaise. Aujourd'hui, Rwanda, au lieu de jouer à la médiation objective et neutre, comme mon collègue camerounais venait de le dire, afin de trouver une solution durable, on nous met les FDLR dans l'accord pour demander au gouvernement congolais de les démobiliser, alors que les FDLR ont été, le peu de FDLR qui étaient restés étaient rapatriés au Rwanda. Et le Rwanda les a recyclés selon les rapports des Nations Unies pour les renvoyer à l'RDC. En principe, c'est le pyromane Rwanda qui envoie les bandits au Congo, et on demande maintenant, il devient le sapeur-pompier, et le Congo, la RDC est transformée en pyromane pour résoudre le problème que le Rwanda a créé. Je pense que c'est le dondon de la France. Je pense que les pays sérieux, comme mon collègue camerounais venait de dire, on doit chercher à trouver une solution durable. Nos voisins doivent être sincères et prendre des engagements pour ne pas soutenir les groupes, pour ne pas créer des milices. Les envoyer en RDC. Le Rwanda est un mauvais voisin. Nous avons l'Angola. L'Angola a une des longues frontières avec la RDC.
nous avons la Zambie, qui a une des longues frontières avec la RDC. Pourquoi est-ce que ces deux pays-là ne sont pas un problème pour la RDC? Pourquoi ils ne sont pas un problème? Nous avons les peuples qui sont à cheval, en Angola et en RDC. Nous avons les peuples qui sont à cheval, en Zambie et en RDC. Là, il n'y a pas de problème. Mais on a certains, on a des populations nilotiques ou toutes ces à l'est, un peu une minorité, sur un territoire ou deux territoires, ça pose problème. Ça justifie que le Rwanda soit en RDC. Je pense qu'on doit cesser avec l'hypocrisie de la communauté internationale qui, au lieu de condamner le Rwanda qui a massacré des populations en RDC et faire payer au régime de Kigali ces bêtises, le génocide commis en RDC, on se met, on dit à la RDC, ok, écoutez, parce que vous savez, quand il y a négociation, ce ne sont pas nécessairement, il y a un médiateur qui vous dit, ok, est-ce qu'on peut mettre tel terme, on peut mettre l'autre terme, et puis on dit, ok, voilà ce qu'on va faire, on va s'entendre pour trouver une solution. À un moment, moi je pense que je suis de ceux-là qui soutiennent le président de la République. Dans cette situation, les Congolais doivent s'assumer. Le seul bloc qui joue le franc jeu avec nous, c'est la SADC. On voit comment le président Ramaphosa, il est mobilisé, et nous avons à saluer les efforts du président burundais qui est en train de jouer un jeu sincère avec nous. Les autres voisins ne sont pas tellement sincères.
Merci, Madame Faïda Mwangilwa. Vous êtes membre de la société civile, experte en genre. Et le tête-à-tête, Joao Lourenço et Félix Tshisekedi pourrait entraîner quelles conséquences dans les processus de paix de Luanda, à votre avis?
Merci beaucoup. Disons, le président angolais, Joao, il a été désigné par ses pairs comme médiateur par rapport au conflit qui oppose notre pays au Rwanda. Et effectivement, il y a eu l'accord de Luanda qui a tracé des mesures et tout, mais dans un premier temps, je tiens encore une fois à présenter d'abord la situation de notre population. Une population qui a fait bientôt, on va totaliser presque 33 ans, 32 ans, jour pour jour, entre d'être appelés, des déplacés, d'autres qui meurent en cours de route et directement ou indirectement, jusque quand le monde entier, y compris tous les dirigeants africains, nos dirigeants au niveau de la région des Grands Lacs, prendront conscience pour dire trop c'est trop. Parce que lorsqu'on examine l'histoire des guerres à travers le monde, les gens veulent tout dire, mais ils arrivent, les guerres se terminent, en fin de compte, par des accords, par des solutions diplomatiques, alors que la population on a payé les lourds tributs après des décès. Donc, moi, je vois d'abord la situation sur terrain, la situation humanitaire des Congolais et Congolaises qui sont encore vivants, qui sont dans des situations de déplacement dans les camps des réfugiés et lorsqu'on voit l'insécurité. En tout cas, on ne peut que souhaiter d'abord l'arrêt des hostilités, l'arrêt définitif des hostilités. Il n'y a aucun problème qui ne peut pas trouver une solution si les gens se mettent ensemble, si les gens, en tout cas, ont la même volonté de trouver des solutions. Donc, l'arrivée du président angolais, Joao, qui est en même temps médiateur, nous, ça nous a réconforté comme organisation féminine travaillant sur l'agenda femmes, paix et sécurité, parce que le mois passé, vous l'avez suivi à travers les médias, les femmes congolaises ont effectué un déplacement pour aller rencontrer le président et dire « Nous avions cru encore à cet énième accord et comment alors on ne trouve pas de résultats ?» Donc, et ça, en le voyant venir en République démocratique du Congo, rencontrer notre président, le président congolais, pour nous, ça nous encourage. Mais ça ne doit pas se limiter là. C'est de voir dans quelle mesure affronter ces problèmes sans passion et de voir comment trouver des solutions durables. Moi, je le dis toujours, on ne peut pas être dans la paix, c'est dire que je suis dans la paix, pendant qu'au niveau du voisin, il y a des problèmes. C'est vraiment une expression africaine, quand la maison des voisins brille, il faut voir comment trouver des solutions. Et aujourd'hui, là, il y a lieu de trouver des solutions parce que le peuple rwandais et le peuple congolais dans sa partie est sont des voisins comme avec le peuple de Congo Brazzaville, avec le Centrafrique, avec tous les autres pays voisins, nous avons 9 pays voisins. Comment on doit continuer à se faire la guerre jour pour jour? Nous sommes des humains, mais l'essentiel c'est de dire qu'est-ce que j'ai laissé aux générations futures. Et là, franchement, il y a lieu d'accélérer le processus et je suis tout à fait d'accord avec Franck quand il dit la SADC, quand il dit l'Angola. Moi, j'encourage tous ces pays à se coaliser autour d'un seul agenda. L'agenda paix dans la région des Grands Lacs, l'agenda paix en République démocratique du Congo.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le mardi 13 août, c'était l'anniversaire de naissance d'Antoine Agbeba Koffi Olomide. On va écouter une de ses compositions intitulée Désespoir et on revient juste après.
Oh, what?
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la toute de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la toute de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire au sujet de la décision du gouvernement d'alléger la fiscalité sur les importations de neufs produits de consommation. Nous avons également analysé les tête-à-tête à Kinshasa entre le président João Lourenço d'Angola et Félix Tshisekedi de la RDC. Participe à cette émission Franck Fouamba, il est directeur général de la revue Mining News. Il est fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement. Il est aussi coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Madame Faïda Mangula, elle est membre de la société civile, elle est experte en genre et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo. Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Création au sein de l'Agence nationale des renseignements d'un département d'intelligence économique et financière. En effet, c'est par une ordonnance présidentielle rendue publique lundi 12 août 2024 par la porte-parole du chef de l'État Tina Salama que le public congolais a été informé de la mise en place d'un quatrième département dédié à l'intelligence économique et financière au sein de l'Agence nationale des renseignements ANER en sigle. Cette structure sera dotée d'une administration centrale et de plusieurs directions et dirigée par Alex Kabuya Mulumba. Les missions de cette structure iront de la surveillance des secteurs de l'énergie et des télécommunications au contrôle des activités financières en passant par la gestion des ressources naturelles. Franck Fouamba, vous avez souhaité nous parler de ce nouvel organe créé au sein de l'Agence nationale des renseignements. On vous écoute.
Merci Guy, merci à mes co-débatteurs, plutôt ceux avec qui on partage le plateau, et merci aux éditeurs de la Radio Capi. Et c'est seulement pour dire que j'étais agréablement surpris quand j'ai suivi la FNC, la création de cette direction, ce département au niveau de l'Agence nationale des renseignements. Principalement pour une raison. Dans le secteur des ressources naturelles, quand nous prenons le pays comme les États-Unis, nous prenons les pays comme la Chine, on voit que toute leur politique, elle est dirigée, elle est basée sur des recherches, sur des renseignements, sur des propositions qui sont faites, en principe, centralisées par leur service des renseignements. Quand nous prenons, par exemple, la dernière liste des minerais critiques et stratégiques qui concerne les véhicules électriques et les autres des États-Unis, on voit que c'est un document qui a été élaboré autour du Pentagone et des services de renseignement et qui ont mobilisé les énergies nationales américaines pour les fixer qu'il y a comme think tank afin de voir quelles sont les erreurs que les États-Unis ont commises hier, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent faire demain, parce qu'ils ont des compétiteurs dont certains sont vraiment nocifs pour eux, comme la Chine, bien qu'ils sont obligés de cohabiter ensemble, et les autres, ils trouvent qu'ils peuvent cohabiter avec eux, comme l'Union Européenne, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et le Canada. Je souhaite, je pense, quand j'ai vu déjà ce que vous avez cité comme direction qui sera organisée au niveau de ce département, qui sera autonome, je vois qu'il va nous aider à cerner les vrais problèmes du pays sur le niveau sécuritaire. Parce que la sécurité n'est pas que militaire ou armée ou politique. La sécurité, elle est actuellement dans le capitalisme, disons qu'elle est d'abord économique. Elle est économique, elle est financière. Pas dans le capitalisme, c'est celui qui a le capital, qui dicte, qui doit diriger. Je souhaite bonne chance à ce département. Je pense que ce département et ses responsables, l'Agence nationale de renseignement et l'autorité de tutelle, vont travailler à mobiliser les énergies nationales, les compétences nationales, les universitaires, les experts de la société civile, les experts des entreprises, les indépendants, les chercheurs, en n'inventant pas la roue. Ça veut dire en copiant ce que les grandes nations et les grandes agences de ce genre font déjà, le travail qu'ils sont déjà en train de faire ailleurs, afin que ce département puisse réellement rencontrer, je suppose que la vision du chef de l'État, c'était que ou elle est plutôt que le pays doit être sécurisé au niveau financier, le pays doit être sécurisé au niveau économique, le pays doit avoir une politique cohérente, parce qu'aujourd'hui nous en manquons.
Le premier problème dont nous avons parlé, le problème de la sécurité alimentaire, il y a mon collègue camerounais qui a parlé effectivement de l'autonomie, il y a Madame Faïda qui a parlé de la même chose, les produits localement. En principe, ça démontre qu'au niveau du gouvernement et au niveau du Parlement, en principe, au niveau des décideurs, il y a un déficit qui se manque sur des politiques cohérentes.
Voilà, donc on peut espérer qu'avec cet organe, l'État congolais pourra être en mesure d'être au courant de certaines actions et de les anticiper. Et c'est comme par exemple, sur le plan économique, non seulement on pourra identifier l'origine de certains investissements, mais également déceler leurs objectifs.
En effet, c'est comme je l'ai dit là. Vous voyez, quand on fait des diagnostics, ils font une sorte de mapping. Ils vont faire une sorte de mapping sécuritaire. Ils collectent les données, collectent les renseignements, et puis ils proposent des solutions. Ce que nous attendons plus, comme on a dit là, c'est le diagnostic et la guérison. Comment y aller? Dès qu'on a décelé, comment y pallier? Gus, et c'est anormal par exemple. En 2006-2007, il était décidé de créer une bourse de matières premières en RDC. C'est quand son Somali, vice-ministre de mine, qui pilotait l'idée. C'est anormal que jusqu'à aujourd'hui, la Zambie a une bourse, et il y a certains voisins qui ont des bourses. Mais nous n'en avons pas. Il y a un problème. Ce qui fait par exemple que nous avons l'essentiel des minéraux critiques qui sont cherchés par le monde entier. Mais son côté ailleurs, son côté dans d'autres, nous dépendons des cotations d'autres bourses. Tout ce qui est fait chez nous. Merci. Alors que c'est nous qui avons les réserves. Et quand vous prenez par exemple les rapports de CNUSAID, vous allez découvrir que le Congo détient les réserves de cobalt, mais le Congo n'est pas producteur de cobalt dans les rapports de CNUSAID. Le producteur de cobalt mondial, c'est la Chine. Parce que le cobalt est tel qu'il est voulu sur le marché international. Il est raffiné en Chine, c'est là qu'on le fait, il est raffiné, l'essentiel. Donc c'est là que j'ai dit que ce département, c'est un plus, c'est une très bonne initiative pour saluer le chef d'État pour cette idée.
Merci.
Et je pense qu'il va apporter un plus si vraiment il se met à faire le travail objectivement.
Merci.
Dans la vision du chef, en mobilisant toutes les énergies, toutes les compétences, toutes les intelligences et en travaillant vraiment pour les intérêts du pays.
Merci Madame Faïda Mongiloa. Encore qu'il faille effectivement donner de l'importance à cet organe, car c'est de cette manière qu'on pourra non seulement les consulter régulièrement, mais également mettre en pratique ses avis, n'est-ce pas?
Oui, disons, les organes dépendent beaucoup plus aussi de leurs animateurs. C'est ça le problème. Les organes dépendent de leurs animateurs. Si c'est des bonnes personnes avec une discipline en termes de gouvernance, et lorsque la structure procédera au recrutement ou à des nominations, on ne sait pas encore comment ça va se faire. Si il tombait sur de bonnes personnes, ça peut aller. Mais malheureusement, chez nous, c'est quoi? Lorsqu'on crée une structure, et petit à petit, c'est des gens qui commencent à s'amener. Et lorsqu'on regarde l'équipe, on trouve toujours qu'il y a un souci. Je vous dis, le premier investissement dans notre pays, c'est l'investissement au niveau humain, des capacités pour réfléchir sans attendre des intérêts, sans attendre des commissions.
Allô, Madame Faïda Mongiloa, apparemment elle est partie, on va essayer de la rappeler. Louis Magloire Kemayou, mais dans un pays où tous les secteurs sont quasiment politisés, où c'est le système des parrainages et pas les autorités morales qui semblent primer, les avis d'un tel organe ne risquent-ils pas de finir dans les tiroirs au profit, n'est-ce pas, des choix opérés plutôt par les autorités morales?
Non, je crois qu'il faut que chacun joue son rôle, et quand on a malheureusement cette forte politisation, des instruments comme celui qui a été mis au service de l'intelligence économique devraient permettre de ramener de la rationalité et de l'efficacité, y compris même de la confiance dans les institutions politiques, parce que le rôle n'est pas uniquement que de protéger par rapport à l'extérieur, c'est aussi défendre les entreprises à l'intérieur par rapport au piratage, par rapport au pillage, par rapport à tout ce qui pourrait venir fragiliser le tissu encore embryonnaire à la fois du commerce et de l'industrie en RDC. Et là, on ne devrait pas avoir de tête chercheuse sur le plan politique. On a besoin qu'ils garantissent à chaque investisseur, à chaque entrepreneur qui se trouve en RDC, que ses intérêts sont protégés par rapport à d'autres entreprises concurrentes qui pourraient se trouver dans un pays voisin, immédiat, ou dans un pays beaucoup plus éloignés. Donc l'intention, elle est celle-là. Et par moment, il faudrait qu'il y ait des réunions aussi qui se mettent en place pour rassurer ces investisseurs, pour rassurer ces entrepreneurs, et surtout pour les accompagner dans une démarche qui n'est pas du tout facile, celle de l'entrepreneuriat, surtout dans des pays comme les nôtres où l'économie est pratiquement au ras des pâquerettes. Je crois que c'est plutôt un instrument qui devrait ramener un peu de confiance dans la politique et dans les institutions politiques du pays.
Merci. Madame Foy-Domanguida, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, ça s'est coupé quand vous...
J'étais en train de parler de la crédibilité même des animateurs. L'idée est bonne. L'idée est bonne d'avoir une surveillance du secteur de l'énergie. Si ce sont des technocrates qui maîtrisent leur domaine, et peuvent énormément, beaucoup contribuer à l'accroissement de notre économie, surtout avec les ressources hydrauliques que nous avons au pays et toutes les autres ressources énergétiques. Donc, j'ai parlé de la crédibilité, la dignité. Comment faire en sorte que, au niveau de nos structures, de mobilisation des ressources, des recherches des ressources, dans le sens du bien-être de la population et de même du développement de notre pays, nous avons besoin d'une catégorie d'hommes et de femmes qui peuvent se dire, oui, je m'abstiens, l'essentiel est que le pays avance. C'est de cela, franchement, c'est une bonne initiative, mais tout dépendra des valeurs que vont défendre les animateurs de cette structure-là.
Merci. Merci. On prend une petite pause en écoutant Mombasa de Kantani Boma dans l'orchestre du Poilipoil et on revient juste après.
Bolingo ya bomwana elola okanisa Nazali mwana mobali Kika na meka nzoto Mote mananga pasi solo bolingo Basala kaboye te ponga ina mipesa Tala liboso lona etala tena simbani Iba kueza kakana nzela te bolingo motema e Thank you.
C'était Mombasa de Kantani Boma dans l'orchestre Lipoa Lipoa. Je rappelle que nous avons dans cette émission Franck Fouamba, il est directeur général de la revue Mining News. Il est fondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement. Il est aussi coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Madame Faïda Mwangilwa, elle est membre de la société civile et experte en genre et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo. Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Jean-Michel Samalukonde a été élu lundi 12 août au président du Sénat de la RDC. Il a totalisé 84 voix, alors que son challenger, Jonas Mukamba, n'a récolté que 9 voix. Samalukonde succède à Modeste Bahati. Les autres membres du bureau définitif du Sénat sont les suivants. Premier vice-président, José Kalala Wakalala. Deuxième vice-président, Modeste Bahati Lukwebo. Rapporteur Nefertiti Ngudianza Bayokissa, rapporteur adjoint Jean-Claude Baende, questeur Topin Mukengeshai et questeur adjoint Pascal Omana. Le candidat rapporteur Justin Kalumba a décidé de retirer sa candidature à la suite de la dynamique constatée dans la composition du bureau. Aucune femme parmi les 5 élus et craignant que le bureau définitif ne soit représenté par aucune femme, il a décidé de se désister en faveur de Nefertiti Ngudianza. Madame Faïda Mwangilwa, vous avez souhaité parler de ce sujet, on vous écoute.
En tout cas, je tiens d'abord à remercier ou à féliciter le sénateur Justin Kalumba pour son engagement en faveur de la promotion et protection des droits des femmes. N'eût été lui la RDC dans son ensemble parce que c'est l'une des chambres de parlement et en tout cas à travers son geste il a donné l'espoir à des milliers de femmes congolaises. Mais je dois dire ici que ça ne devrait pas être une représentation par pitié, non, et nous sommes en train d'y travailler. On ne peut pas comprendre que au niveau d'un bureau du Sénat, sur 7 membres du bureau, qui est seulement une seule femme. Non, non, non. Et c'est là que nous sommes en train de travailler pour que lorsqu'on parlera encore de la révision de la loi électorale, nous puissions avoir des dispositions contraignantes. On ne peut pas, après 18 ans d'inscription du principe de parité dans la Constitution, donc nous puissions continuer à vivre de telles situations. Pas du tout. Parce que la femme est une grande composante dans ce pays. Et il ne peut pas y avoir de développement sans participation. On ne demande pas la participation de la femme de façon tout à fait symbolique ou quoi, non. On demande la participation de la femme pour des changements au niveau des politiques publiques, pour une certaine, parce qu'il faut du courage politique et assumer les options, en tout cas, levées au niveau de la loi fondamentale, qui est notre constitution. Donc, en tout cas, je dois avouer ici que nous étions en train de suivre les élections de membres du bureau du Sénat. Nous avons tout de suite compris que nous devons continuer à travailler de manière à ce que les dispositions légales soient contraignantes en matière de représentation de façon paritaire des femmes, parce que là, c'est des questions non négociables, et ça, c'est pas pour nous les femmes qui travaillent sur la thématique, mais nous les faisons pour le bien des générations futures. Lorsque dans une communauté, les femmes sont à 51%, et que lorsqu'on parle de leur représentation, il y a des hésitations. Je dois vous dire ici qu'au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons été encouragés. Et là, lorsqu'il y a des femmes qui sont à l'intérieur comme membres du bureau, nous trouvons beaucoup de facilités. S'il faut introduire un dossier pour des échanges, de manière à ce que nous puissions voir lors de la session prochaine, comment est-ce qu'on va élaborer un budget sensible aux gens. Nous trouvons en tout cas beaucoup de facilités pour atteindre les membres du bureau parce qu'il y a des femmes. Oui, alors nous souhaitons en tout cas bonne chance à l'unique femme qui nous représente au sein du bureau, mais ce n'est pas aussi le nombre qui compte, c'est la qualité du travail qu'on doit produire pour le bien de la nation. Nous sommes aussi, en même temps que nous réclamons la représentation paritaire des femmes, nous sommes en train de travailler pour que les femmes qui nous représentent dans les institutions soient des personnes qui travaillent pour le bien de la nation et qu'elles aient un autre comportement digne, pas prendre des comportements que la population déplore, mais se comporter en conséquence, travailler durement pour l'intérêt supérieur de la nation. Cette question était très, très, très difficile et nous avions suivi toutes les étapes de ces élections au niveau de membres du bureau du Sénat. Et à un certain moment, on était franchement très découragés et c'est là que je salue le courage politique du sénateur Justin et même de sa famille politique parce que en pareille situation, il y a toujours des tractations au niveau interne, au niveau des membres de la coalition présidentielle et tout. En tout cas, tous ceux-là qui sont intervenus pour ne pas faire la honte à la FDC quant à la représentation des femmes dans ce bureau. En tout cas, nous tenons à les remercier.
Merci, Louis Vangloire Kemayou. Et comment cette question des représentativités de la femme dans les institutions politiques est perçue dans certains pays africains, notamment les vôtres, hein, le Cameroun?
Pour le moment, on en est au même stade que la plupart des pays, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de responsabiliser davantage les femmes, mais je crois que quand on prend la politique par ce bout-là, on se trompe un peu de combat, parce que la plupart de nos femmes sont déjà suffisamment responsables, puisque la responsabilité du foyer pèse sur leurs épaules. Il arrive que leur mari paie leur travail, il arrive que leurs enfants reviennent dans des états où le père n'est plus disponible pour les gérer, et ce sont nos femmes qui prennent le relais dans ce cas-là. Et donc quand on est dans une situation comme celle-là, l'idée n'est plus de montrer qu'il y a des femmes, c'est de préparer les femmes à assumer ce genre de responsabilité. Quelqu'un disait, quand on éduque une femme, on éduque une nation. Je pense que ça devrait partir même de la question de l'éducation, de la formation, de sorte que quand les femmes arrivent devant des situations où elles doivent trancher, qu'elles le fassent en connaissance de cause, parce qu'on les a outillées pour le faire et pour bien le faire. Mais quand on veut imposer des quotas, je crois qu'on devrait d'abord adopter une règle pour dire qu'à incompétence égale, l'homme et la femme se valent. Parce que je crois qu'aujourd'hui, elles ont suffisamment fait leur preuve dans la gestion. Prenez juste la route dans n'importe lequel de nos pays. Essayez de partir d'une ville à une autre et voyez combien de personnes au bord de la route s'adonnent à des activités agricoles, à des activités commerciales, à des activités difficiles, y compris à des heures très avancées de la nuit. Ce sont les femmes. Et elles le font, non pas pour elles de façon égoïste, mais pour leur famille, pour la nation. Et donc je crois qu'il n'est plus besoin aujourd'hui de leur donner des médailles pour cela, mais de leur donner des instruments qui leur permettront de jouer leur rôle à plein régime.
Merci Franck Fomba, nous allons finir cette émission avec vous. Comment la RDC devrait faire pour, n'est-ce pas, permettre à la femme de participer de manière active aux institutions politiques et de façon paritaire?
Bon, c'est ce que mes deux prédécesseurs venaient de dire. Madame Fayol l'a bien dit, et mon prédécesseur vient de le dire aussi. On doit faire confiance à la femme. Aujourd'hui, il s'est établi que les femmes congolaises, il y en a des compétences. Dans tous les secteurs. Et même dans les secteurs compliqués, comme les secteurs des hautes technologies, où vous avez les dames comme Sandrine Ngalamou-Benga, qui est parmi les meilleures au monde. Ce qui s'est passé au Sénat, moi, ça m'a critiqué. J'ai compris que le sociétaire, le président de l'Union sacrée, ne joue pas le jeu du président de la République. Le président de la République est champion de la masculinité politique. C'est au gouvernement où il a collaboré avec le premier ministre pour nommer le gouvernement, on voit qu'il y a plus de femmes que dans d'autres institutions, ce qui est anormal. Effectivement, on va dire qu'au Sénat, peut-être, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais ça part de la base. De la base, c'est que quand l'Union, les partis, le groupement de l'Union sacrée choisissait les candidats sénateurs, ils devaient tenir compte de la représentation de la femme, de la masculinité. Vous étiez donc pas le chef de l'État. Vous savez, ce qui trahit nos leaders politiciens, ce sont des propagandistes égoïstes. Quand ils veulent avoir des postes, ils chantent qu'ils sont derrière le chef. Mais quand il faut appliquer les politiques, les initiatives du chef, ils ne le font pas. Parce que, effectivement, on devait avoir au moins deux femmes dans le bureau du Sénat. Nous avons des femmes compétentes. Au Congo, aujourd'hui, on a des femmes compétentes dans tous les secteurs. Dans les mines, dans les hydrocarbures, dans les technologies, dans tout ça. Il y a des femmes compétentes. Et ces femmes-là pouvaient être cooptées facilement dans des partis politiques ou pas des mouvements politiques
pour réintégrer le Sénat, parce que le Sénat, quel est son rôle? C'est l'Assemblée des sages. Quel est son rôle? C'est l'Assemblée des sages. Et on a besoin des sages. Plutôt que de mettre des gens qui sont fidèles à telle autorité morale, à telle, et qui n'apportent rien. Ce qu'il faut, c'est que, comme j'ai dit, c'est que mes prédécesseurs venaient de dire, qu'on soit juste sérieux et sincère dans ce que l'on fait. Qu'on comprenne que ce n'est pas une faveur qu'on fait aux femmes congolaises. Qu'on comprenne qu'aujourd'hui, les femmes congolaises doivent être, on doit tenir compte d'elles. Et les lois, c'est là que je soutiens madame Faïla, les lois doivent être plus claires. C'est pas pour ne pas favoriser les femmes, mais pour qu'il y ait qu'il y ait de l'équité dans la représentativité. C'est normal que la France de la population qui représente 51% et soit sous-représentée. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Nous avons la première ministre, on a des ministres très compétents qui sont des femmes, qui sont dans le gouvernement, le professeur Malouet des autres, dans les institutions, comme j'ai dit, dans les entreprises, on en a. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui en RDC pour que les femmes soient sous-représentées. Parce que si dans les secteurs comme les mines, la géologie, la métallurgie, on a des femmes qui tiennent les départements pour des multinationales. Quand vous allez chez Kiba Goldman, c'est barré. Mais le département de géologie, le numéro 2, c'est une jeune dame sortie de l'université de Kinshasa. Vous allez dans le Katanga, vous en avez comme ça là, qui tiennent de la mine. Donc, ils doivent découvrir les réserves sur lesquelles les mines doivent se monter pour fonctionner. Et comme j'ai dit là, vous avez Madame Kilongozi qui a inventé le robot là-bas, le robot intelligent, plutôt notre roulage intelligent là-bas. Ça vous démontre, les femmes, il y en a, les femmes congolaises, il y en a dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs de la vie, on a des femmes compétentes. Madame Faïda elle-même, elle est là. Elle est expérimentée, c'est une politicienne expérimentée. Elle a choisi maintenant d'être avec nous dans la société, c'est une bonne chose. On a les femmes congolaises, faisons les lois et ont le courage de faire les lois qui répondent à la vision du leader. Le leader a dit la masculinité positive. Ce sont de l'hypocrisie, ce sont de la propagande, ce sont de la flatterie. Mettons ça en pratique, afin que les femmes congolaises se retrouvent.
Merci.
Merci, Guy.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Faïda Mangula, Monsieur Louis Magloire Kimayou et Monsieur Franck Fouamba. Merci aussi à Willem Lungamba qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Michou de Pépé Calais dans l'orchestre Empire Bakuba et on se retrouve le samedi prochain.
bayemi.
Mama nanga ikalamo, isu miselina.
La corale.
Mama nanga ikalamo, isu miselina. Seri mama yoke langa, na moni pasi modie.
Hekonginda!